Bonjour à tous. J'aimais pas quand Aurélien disait « levez-vous ». Pas pour la louange, hein. Loin de là. C'est parce que ma femme avait des hauts talons et quand j'étais à côté d'elle, je la voyais plus grande que moi. Ça me fait penser à mon père. Il n'était pas grand. Et quand il était près d'un grand, il disait « Seigneur, pourquoi tu as tout donné à lui et peu à moi ?» Chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous avons tous reçu de la part du Seigneur qui nous a retirés des ténèbres pour être dans sa lumière. Nous avons reçu tous le pardon de nos péchés et de nos iniquités par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tous reçu la vie et la vie éternelle. Et voilà qu'un homme ou une femme te téléphone, t'envoie un SMS ou un mail et te dit « il te manque quelque chose ». Dans ta foi. Qu'est-ce qu'on va répondre? Pas dans le pack que tu as reçu, mais dans ta foi. Si aujourd'hui on me dit, Gino, quel message tu veux apporter aujourd'hui? Mais ce n'est pas le message d'aujourd'hui que je voudrais apporter. Il y a dans la parole de Dieu une église qui a tout reçu. Une église extraordinaire. Elle a connu les persécutions, elle tenait bon. Elle a connu toutes les épreuves et toutes les tempêtes. Et elle continue à vivre une vie exemplaire. Et pourtant, Paul leur dit qu'il manque quelque chose dans leur foi. Vous savez quelle église? On va lire ensemble juste ce verset. C'est le premier livre de Thessalonique, au chapitre 3, le verset 10. Chapitre 3, verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Et de compléter ce qui manque à votre foi. J'ai lu ce verset avant Noël, juste avant notre fête de Noël. Et ce verset me suivait jour après jour. Il fallait que je m'arrête et que je regarde un petit peu plus profond de ce verset. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que c'est pas le message que je voulais apporter. Mais ce verset me suivait tellement que j'ai dû travailler sur ce verset. Et avant de voir ce qui manquait dans leur foi, ces frères et sœurs de Thessalonique, juste un petit rappel. Paul, lors de son voyage à Thessalonique, il était avec Silas et Timothée dans Actes au chapitre 17. Thessalonique, la capitale est la ville la plus importante. Il y avait, on pense, 200 000 habitants. J'ai regardé un petit peu ici en Belgique, la plus grande ville est, où il y a plus d'habitants, ben c'est Anvers, 260 000. Puis Bruxelles, 184 000. Je ne sais pas si on réalise à Thessalonique, il y avait 200 000 habitants. Et Paul, dans ce voyage, il est resté que 3 sabbats. Qui veut dire 3 semaines. Et dans ces 3 semaines, il rentre dans une synagogue. S'il rentre dans une synagogue, ça veut dire qu'il y avait des Juifs. Mais bien sûr, des Grecs, mais également les Romains. Les Romains sont partout. Et Paul évangélise en disant que Jésus était le Messie et qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et il est dit que quelques Juifs sont venus à Jésus. Pas à Paul, à Jésus, ainsi que des Grecs. Mais ces Juifs non convertis étaient jaloux de Paul, ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Qu'ils ont pris des hommes, certainement des Romains et des Grecs, pour commettre une agitation, une trouble. Et Paul a dû s'enfuir avec Silas et Timothée. Et le désir de Paul, c'est de revoir ses frères et sœurs. Et ça me fait plaisir de revoir ma sœur Solange et Georges ce matin. Ils ont connu des difficultés et de la souffrance. Et combien ça nous fait plaisir de les voir. Et Paul avait ce désir vraiment de revoir ses frères. Mais il était impossible de se joindre à Thessalonique. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie Timothée pour s'informer de leur foi. Parce que Paul s'inquiétait qu'il y avait des persécutions, toutes sortes de tempêtes là-bas. Et quand Timothée est revenu, on voit ça dans le chapitre 3, quand il est revenu de Thessalonique, il annonce que des bonnes nouvelles à Paul. Et Paul se réjouit. Paul se réjouit. Alors pourquoi Paul leur dit qu'il manque encore quelque chose dans leur foi? Alors, pour compléter cela, il faut lire le chapitre 4. Et on va lire ensemble le chapitre 4, les 8 premiers versets. Il est dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Certaines traductions débauchent. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Voilà pour ce matin. Si on regarde bien ce verset 1, il dit « Au reste, frère », qui veut dire qu'il n'a pas fini l'apôtre Paul. Il veut répandre le contenu de ce qui manque dans leur foi. Paul n'est pas un chef, il est avant tout un frère. Un frère qui parle avec amour. Et cet amour le pousse à dire la vérité. Paul, quand il était à Thessalonique, leur a dit comment ils doivent plaire à Dieu. Paul avait donné toutes les instructions, comment ils doivent vivre pour plaire à Dieu. Ce n'est pas Paul qui le dit, ces préceptes, mais c'est le Seigneur Jésus, de la part de Jésus. Souvent, nous, les chrétiens, on considère que la vie chrétienne n'est qu'un ensemble de règles où on doit obéir, avec une grande liste, mais une grande liste d'interdictions. Plaire à Dieu, c'est un fruit, un dessert qu'on apprécie de plus en plus et qu'on veut le plaire à Dieu. On voit que ses frères et sœurs marchaient déjà à plaire à Dieu. C'est ce qu'il dit, Paul. C'est là ce que vous faites. Mais Paul dit, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Conjurons. Qui veut dire, je vous encourage, mes frères et sœurs. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, de marcher de progrès en progrès. Une église qui est forte et qui croit avoir tout réussi et qu'elle se dit, j'ai plus besoin de m'améliorer. C'est une église qui est dangereuse. Et peut-être que cette église se croyait au-dessus du sommet. Paul le dit pour lui-même dans Philippiens au chapitre 3, ce verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Paul savait très bien que jour après jour, il avait besoin de Dieu pour marcher en progrès, en progrès. Paul avait tout appris, toutes les instructions à cette église. Alors, pourquoi il manque quelque chose à cette église dans leur foi? Nous devons savoir, et il est bon pour nous, de savoir que la croissance spirituelle n'est pas un processus instantané. Oui, en un clin d'œil, tu es passé des ténèbres à la lumière. Mais la croissance spirituelle n'est pas un processus instantané. Marcher dans l'obéissance, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est les semaines qui suivent, les mois qui suivent, les années et durant toute ta vie. Alors ce qui manque dans leur foi, c'est dans les versets 3 à 8. Dieu veut, c'est pas l'apôtre Paul. Dieu veut. Mais qu'est-ce qu'il veut, Dieu? Dieu veut votre sanctification. Il y a beaucoup de choses à dire sur la sanctification. Mais juste là, dans ce contexte, la sanctification, ils ont été séparés du péché et mis à part pour la sainteté de Dieu. Et elle doit continuer sa sainteté. Dieu les conduit dans la sainteté. Dieu donne la capacité de marcher dans la sainteté. Voilà le processus de la sanctification. Voilà ce qu'il manque dans leur foi. Alors, il faut comprendre cette église. Une église qui est en pleine ville, 200 000 habitants. avec que des païens. Une culture gréco-romaine qui veut dire, c'est l'apôtre Paul qui parle, ces païens qui étaient dans la débauche. Pornéa. Paul utilise ce terme pour décrire toute forme de conduite sexuelle. Il n'y avait que ça, que ça. Il y avait la fornication, que la fornication. Il y avait l'adultère, que des adultères. Des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes. Toutes sortes de porno. J'ai regardé la finale de la Coupe du Monde. Bien sûr, j'aime bien le football, j'aime bien regarder. Et j'ai regardé cette finale. Et juste à la fin, quand l'Argentine a gagné, je regardais ces supporters argentins qui pleuraient et pleuraient. Ainsi les joueurs qui pleuraient. Et j'ai regardé ce match à la une, RTBF. C'était bien la une ou typique. Bon, soit. Et là, il y avait un Argentin. Et il avait des larmes également. Et ce qui m'a touché, c'est qu'il a dit, nous les Argentins, le football, c'est notre religion. Thessalonique, notre religion, c'est la débauche. Il n'y avait pas de cadre de mariage. Même s'il y avait l'un ou l'autre cadre de mariage, aller voir ailleurs, c'était normal. L'époque de nos parents, l'époque de nos grands-parents, il y avait un cadre de mariage. Même si on n'était pas chrétien, on avait cette culture chrétienne. On respectait le cadre du mariage. Aujourd'hui, on revit l'époque de l'apôtre Paul. Pire encore. Aujourd'hui, à la télévision, n'importe quelle heure, ces publicités nous montrent des choses horribles. On nous montre un parfum avec une femme en culotte. Vous trouvez ça normal? Ben oui, c'est normal. Aujourd'hui, c'est comme ça. On vous montre du café, deux femmes qui s'embrassent. C'est normal. Sur Internet, YouTube, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est normal. Pourtant, on a une culture chrétienne. Mais où est-ce qu'elle est? J'ai entendu, c'est nouveau. En Angleterre, ça vient de commencer, il y a 2 semaines d'ici. Je ne sais pas s'ils vont le faire tout le temps, mais voilà que à Londres, on prend le métro, c'était un samedi ou un dimanche, en culotte. Pourquoi? En culotte. Mais où est-ce qu'on va? Si ma grand-mère ressuscite aujourd'hui et elle voit ça, tout de suite elle retourne. Une époque où il n'y a plus le cadre du mariage. Pourtant Dieu nous dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Hébreux, chapitre 13, verset 4. Dieu jugera les débauchés. Moi, je crois vraiment que Dieu est triste de devoir juger les débauchés, les adultères. Je crois vraiment. Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu bénit les rapports sexuels. Mais dans le cadre du mariage, Dieu bénit cela. Dans le cadre du mariage, mais pas hors du cadre du mariage. Ces chrétiens de Thessalonique étaient avant tout une culture de débauche. Il faut comprendre ces personnes. Et ils devaient faire attention à ne pas revenir en arrière. Et pour ne pas revenir en arrière, il faut marcher de progrès en progrès. Il y aura encore, il y a encore des envies. J'ai entendu il n'y a pas si longtemps une personne qui disait « Ça fait des années que j'ai arrêté de fumer. » Je ne veux pas dire que la cigarette était un péché, c'est pas ça, c'est hors contexte. Je veux dire simplement, ça fait des années que j'ai arrêté de fumer. Mais il m'arrive, de temps en temps, d'envie de fumer une cigarette. Ses frères et sœurs, certainement qu'il y avait encore des envies de revenir dans ses désirs de la débauche. C'est pourquoi Paul parle du corps. Le corps ne doit pas dominer. On doit maîtriser ce corps. Le corps va plus vite que notre cœur. Ces appétits sexuels on doit les maîtriser. Alors on verra après quelques pratiques. Paul parle de vivre dans la sainteté et l'honnêteté. Le contexte reste toujours le même, sexuel. Rester dans la sainteté et l'honnêteté. Vivre la sainteté, c'est être séparé de cette débauche. Et l'honnêteté, s'efforcer à être honnête vis-à-vis du Seigneur. Vous êtes le temple de Dieu. Est-ce que tu es honnête dans ton corps? J'y habite dans ton corps. Est-ce que tu es honnête? C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité, merci Rose, dans les affaires. Le contexte reste toujours dans le sexe. Ne pas influencer ton frère ou ta sœur dans ce péché. Jésus est clair quand il parle. Il dit, mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Jésus est fort quand il dit cela. Alors fais attention à ne pas influencer ton frère ou ta sœur qui est plus faible. Dans ce péché. Paul dit, en quelque sorte, le croyant qui se livre à la débauche, Dieu qui tire vengeance de toutes ces choses, celui donc qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. On ne rejette pas un homme, on rejette Dieu. Paul dit, déjà dit et déjà attesté. Pourquoi il dit ça? Déjà dit et déjà attesté. Qui veut dire, mes frères et sœurs, il a vu et il a attesté qu'il y a des conséquences de vivre dans la débauche. Aujourd'hui, on ne veut plus ça, qui a des conséquences dans la débauche. Dieu tire vengeance. Dieu tire vengeance. Et Paul dit, attesté. Alors je vais mettre des gants ce matin pour dire cela. J'ai même une crainte de le dire. J'ai même peur. Mais je veux le dire, il y a des conséquences de jouer avec ça dans la débauche. La première conséquence que je vois, c'est le divorce. Tu t'amuses à ça, mais tu joues avec le feu. Et un divorce, on le sait tous. C'est la famille qui souffre et les enfants. Myriam, vous le savez, elle est institutrice. Elle me dit combien d'enfants. Une fois, c'est le papa qui vient le chercher. Une fois, c'est la maman. Parce qu'ils sont séparés. Il y a une souffrance. Pour les enfants, mais pour toute la famille. Quelles conséquences de jouer avec ça? Et Paul dit, déjà dit à tester. Une perte d'amour. Picoré un peu partout, on oublie le sens vraiment de l'amour. Parce que picoré un peu partout, on ne sait plus quoi. Voilà les conséquences. Là, je veux mettre des doubles gants. Parce qu'on ne veut pas entendre ça. Ça arrive. Des maladies. Toutes sortes de maladies. Également, des conséquences. Manque de bénédiction de l'Éternel. Parfois on dit, mais Dieu ne me bénit pas. Mais avant tout, il veut te faire comprendre ce qu'il y a dans ton corps est mauvais. Et cette Église vivait cette sainteté. Elle le vivait jour après jour. Mais elle doit continuer à vivre la sanctification. Tu n'es pas arrivé au sommet, dans cette gloire éternelle. C'est quand tu meurs que tu es dans cette gloire. Mais sur cette terre, tu dois marcher de progrès en progrès. C'est ça la sanctification. C'est ce processus que Paul leur dit. Quelques paroles en pratique. Chaque croyant, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est pas n'importe qui. C'est Dieu lui-même. Avec toute sa puissance, elle est venue dans notre corps. La discipline ne vient pas après la libération. Dieu t'a libéré quand il est venu dans ton cœur. Et il veut que tu vives la discipline. Et cette pratique en première, je pense à la parole de Dieu. De lire la parole de Dieu. Non pas tirer au hasard et prendre un verset. Lire la parole de Dieu, tu prends un livre et tu commences au chapitre 1 et tu termines. Pour que tu puisses voir ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Lire la parole de Dieu. La deuxième, quand la tentation vient, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as déjà essayé de prier quand la tentation vient? On connaît tous cette prière, notre Père qui est aux cieux. Quand la tentation vient, prie ton Père. La deuxième chose de prier. Troisième chose, quand la convoitise est là. Il faut pas s'approcher, c'est trop dangereux, mon frère, ma sœur. Quand la convoitise elle est là, arrête-toi et fais comme Joseph, qui courait, qui court et il court. Si c'est pour toi la télévision, arrête la télévision. Arrête. Certainement, les jeunes, je connais parce que je suis passé par là. On se dit quand on est jeune, une fois que je serai marié, il n'y a pas de souci. Tu te trompes. Tu te trompes. Si tu prends l'habitude dès ta jeunesse à cela, il faut t'arrêter dès ta jeunesse. Arrête. Si c'est la télévision, arrête. Si c'est pour toi, YouTube, arrête YouTube. Si c'est pour toi, Internet, mais coupe Internet. Ouais, mais j'ai la 4G. Ben arrête la 4G. Quand la convoitise est là, arrête. Ne t'approche pas trop. C'est dangereux. Quatrième, si tu connais un frère, mais un frère de confiance, ou une sœur de confiance, frère avec frère et sœur avec sœur, parle-lui-en. Dis-lui tes difficultés. Vous allez prier ensemble. Et quand la tentation, elle vient, téléphone-lui. Ou toi, téléphone de temps en temps à ton frère. Et dis-lui, est-ce que ça va? Passe du temps avec ton frère. Cinquième, pratique. Je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Il n'est jamais trop tard, mais jamais trop tard de revenir à Dieu. Jamais. Le fils prodigue est tombé dans le trou. Vraiment dans le trou. Il dit, je vais retourner vers mon père. Et quand il retourne vers le père, j'aime bien cette image, c'est que le père le regarde de loin et court avec. Tous les deux, ils font un sprint. Mais le Père court peu vite et il commence à l'embrasser. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Il veut nous embrasser. Et qu'est-ce qu'il dit, le Fils? J'ai péché contre toi. Voilà la grâce de Dieu pour chacun de nous. Alors, l'église de Jumet doit marcher de progrès en progrès dans la sanctification. Ça ne veut pas dire que l'église de Jumet vit la débauche. Mais de marcher en progrès dans la sanctification, ça veut dire ne marche plus dans ton ancienne vie. Si c'était la débauche pour toi, fais attention. Mais si c'était le vol, arrête de voler. Et marche de progrès en progrès. Si c'était le mensonge, arrête de mentir. Si c'était l'hypocrisie, arrête. Arrête. Si c'était l'orgueil, arrête. Être égoïste, arrête. Si c'était l'alcool, arrête. Si c'était une vie de critique, tu critiquais les uns les autres, arrête et vis de progrès en progrès. Dieu t'a donné la capacité. Et Paul t'encourage et nous encourage. Ce n'est pas que j'ai remporté déjà le prix, mais je cours. Alors, cette semaine, courons dans la sainteté. avec l'Esprit de Dieu. Amen.